Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce samedi 29 janvier, le nombre de cas de Covid toujours élevé en Australie, les premiers ministres peinent à se mettre d'accord en cabinet national et les adolescents de 16 et 17 ans peuvent finalement recevoir leur booster comme des adultes. Tout le point sur la pandémie dès le début de ce journal. À l'international, la Russie qui assure ne pas vouloir déclarer la guerre à l'Ukraine, Washington qui n'y croit pas et appelle l'ONU à la rescousse et Kiev qui demande à l'Occident de ne pas attiser les tensions, on fera le point de ce micmac. L'Australie qui débloque un fonds additionnel de 1 milliard de dollars pour sauver la grande barrière de corail. Pas de quoi satisfaire Greenpeace, vous les entendrez en fin de journal. Et enfin, la finale de l'Open d'Australie, aujourd'hui et demain. L'Australienne Ash Barty va-t-elle gagner à domicile? Raphaël Nadal va-t-il battre le record absolu de 21 titres du Grand Chelem? On évoquera ces questions dans le Journal des Sports. On ouvre ce journal avec l'Australie méridionale, le South Australia, qui met en place un plan de relance économique. L'objectif est clair, encourager la population à soutenir les entreprises affaiblies par la pandémie de Covid-19. On écoute le Premier ministre du South Australia, Stephen Marshall.
So we will have a new Great State voucher focused on accommodation. So the Great State accommodation voucher will be $100 for the CBD, $50 outside of the CBD, and we also have a new voucher for experiences. So that is going to be hugely beneficial, and I think it will give us this bounce out of the situation that we've had where many businesses have suffered from a lack of demand over the last 4 or 6 weeks.
Et cette annonce intervient alors que 1740 nouveaux cas et 5 décès ont été recensés en 24 heures dans le South Australia. De son côté, le Western Australia n'assouplira pas tout de suite sa politique à l'égard du Covid, annonce faite par le Premier ministre de l'État, Mark McGowan. Pour l'heure, les cas positifs et les cas contacts doivent toujours s'isoler durant 14 jours et non pas 7, comme dans les autres États. Et la définition de cas contact reste plus sévère qu'ailleurs. Il s'agit, attention, je précise qu'on parle toujours du Western Australia uniquement dans ce cas-là, les personnes d'un même foyer, les couples, même s'ils ne vivent pas ensemble, deux personnes qui se sont parlé en face à face pendant 15 minutes ou deux personnes qui étaient dans la même pièce pendant 2 heures, une définition plus stricte que dans le Victoria ou encore la Nouvelle-Galles du Sud, ce dont se justifie Mark McGowan.
The approaches in states like New South Wales and Victoria are much looser. Only household or household-like contacts of a confirmed positive case are declared close contacts and are required to isolate and get tested. But again, we have the opportunity to watch and learn and strike the right balance unique to Western Australia.
Les États de l'Est de l'Australie, justement, 31 personnes sont décédées dans le Victoria, alors que l'État décompte 12 250 cas en 24 heures. 953 personnes sont toujours hospitalisées, dont 114 en soins intensifs et 39 sous ventilateur. Des chiffres encore plus élevés en Nouvelle-Galles du Sud, 49 décès, plus de 13 000 cas en une journée. Du côté des hospitalisations, on dénombre près de 2 700 patients et 186 personnes en soins intensifs. Et en mot du Queensland plus au nord, plus de 10 000 infections et 12 000 décès, d'après le dernier des comptes officiels. Pour ce qui est du nouveau variant du Covid, surnommé le fils d'Omicron, eh bien la plupart des États et territoires australiens n'ont pas détecté de contamination ou alors un très faible taux par rapport à Omicron numéro 1, si je puis dire. Ce nouveau variant, le fils d'Omicron, a été trouvé dans plus de 40 pays, mais n'est pas encore considéré comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé pour le moment. Le professeur Brendan Crabb était invité chez nos confrères de Sunrise.
It's not a time for alarm, this variant. It's not a variant of concern yet, which is a formal designation that the WHO makes. It is quite a different looking Omicron. It's an Omicron, but it's a different looking one. And the reason it's on the radar is that in some countries, it's replacing the original Omicron, suggesting it's growing better than they are, transmitting better than the original Omicron.
Et toujours au sujet de l'épidémie, eh bien la troisième dose de vaccin est désormais autorisée dès 16 ans et non plus 18, comme c'était le cas avant. La Therapeutic Goods Administration vient de donner son feu vert pour que les adolescents de 16 et de 17 ans puissent recevoir le même booster que les adultes. L'objectif est simple, bien sûr, il est de réduire le taux de contamination parmi les jeunes. On écoute la chef des infirmiers et obstétriciens, Alison McMillan.
They're very mobile, they interact very frequently. We all know the challenges that we face with getting our younger people to wear masks, to follow the sort of things we ask of them with social distancing and all of those requirements. So yes, we are seeing cases in younger people.
Le cabinet national n'a pas réussi à s'entendre sur la définition de vaccin entier, de vaccination entière. Faut-il avoir reçu ces deux doses ou bien ces deux doses et son booster pour être considéré totalement immunisé? Les ministres n'ont pas décidé, ils doivent se réunir à nouveau à ce sujet dans deux semaines. Une absence de décision qui contrarie le Premier ministre du Victoria, puisque pour Daniel Andrews, le booster est nécessaire. Écoutez-le.
This is not a two-dose thing. A two-dose is an A bonus. This is a three-dose project. And it's only with those three doses that you can hope to be properly protected against serious illness, minimizing your likelihood of transmitting this virus.
Politique française à présent et Marine Le Pen de plus en plus seule dans sa course à l'Élysée. La candidate du Rassemblement national voit la plupart de ses soutiens lui tourner le dos et lui préférer son rival Éric Zemmour. Dernier coup dur en date, l'annonce de sa propre nièce Marion Maréchal de ne pas soutenir sa tante. Marion Maréchal qui ne met d'ailleurs pas de côté, elle aussi, de se rallier à Éric Zemmour. Julien Chavanne pour Radio France Internationale.
Rallier Éric Zemmour ou rester à l'écart de la présidentielle? Marion Maréchal laisse planer un faux suspense sur son choix officiel dans un mois. À 32 ans, l'ex-députée en retrait de la vie politique depuis presque 5 ans a envie de replonger dans le bain. Et une chose est sûre, elle ne soutiendra pas sa tante. En cause, ses revirements idéologiques, notamment sur le mariage pour tous. Invitée de CNews ce vendredi, Marine Le Pen encaisse le coup.
C'est brutal, c'est violent, c'est difficile. Pour moi. C'est une incompréhension politique déjà, parce qu'elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour.
Marine Le Pen ne s'y attendait pas. Son entourage minimise. Le probable ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour sera sans effet, assure un proche de la candidate RN. Car, dit-il, tous les proches de Marion sont déjà partis, à savoir Jérôme Rivière ou encore Gilbert Collard. En coulisses, plusieurs figures du RN ne cachent pourtant pas leur proximité avec Marion Maréchal, restée très populaire parmi les électeurs d'extrême droite. Son non-soutien à Marine Le Pen pourrait entraîner d'autres fuites chez Éric Zemmour.
Et Marine Le Pen qui vient de contracter un prêt de 10,5 millions d'euros pour sa campagne. Cet argent lui a été prêté par une banque européenne dont on ne connaît pas le nom. Toujours dans le volet international, la tension ne faiblit pas entre la Russie et l'Ukraine où plus de 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière. Dans un communiqué publié hier, Vladimir Poutine assure ne pas avoir l'intention de commencer une guerre, mais dénonce l'ingérence des pays occidentaux. De son côté, l'Ukraine se prépare tout de même à une riposte, si nécessaire. Le Royaume-Uni lui a fourni des armes défensives et des armes anti-chars, un système de défense avec lequel les soldats ont commencé à s'entraîner, parmi eux Alexander Gerasimov.
Now when the situation is being aggravated by the Russian troops, by the Russian government, it is very necessary, very timely and very effective. And I think that first we will test it, and then there will be more weapons and more specialists. It'll be easier for us and the army will be stronger, and that will make Russia think twice.
Washington, persuadé d'une attaque imminente par Moscou, bouscule le calendrier et demande une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après-demain, lundi. On écoute la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.
We don't know if the Russians are playing games on diplomacy. We hope not. And our intention, we are certainly pursuing diplomacy with a level of seriousness and an intention in leaving that door open and pursuing that path. Should they be open to it? They have conveyed they're reviewing what was sent to them, that's a part of the diplomatic process.
La Maison Blanche qui a annoncé également vouloir envoyer des militaires en Europe. De son côté, l'ambassadeur de Russie en Australie s'est exprimé lors d'une rare conférence de presse. Il balaye d'un revers de main d'éventuelles sanctions de la part de Canberra et assure que Moscou n'est pas agressive envers Kiev. On écoute Alexei Pavlovsky.
You cannot say there is a Russian aggression. You say it's a threat of invasion. I challenge you to stay on the positions of just common sense. And then if we stay on these positions, we would understand that it's a funny way to prepare an invasion, to gather troops on the border and kind of let them sit there for months.
Alexei Pavlovski, ambassadeur de Russie en Australie, qui en a aussi profité pour accuser Canberra d'attiser l'hystérie, je cite, en retirant les familles de ses diplomates de la capitale ukrainienne Kiev. Le gouvernement britannique toujours dans le flou quant à l'avenir de son premier ministre, Boris Johnson pourrait perdre sa place embourbée dans le Partygate, l'affaire des fêtes à Downing Street qui se sont tenues durant les confinements. Un rapport devait être publié la semaine dernière mais n'a cessé d'être repoussé. Et bien finalement, ce rapport pourrait ne pas du tout être publié ou bien être très transformé. À Londres, la correspondance d'Emeline Vin.
Le rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray est prêt depuis le milieu de semaine, mais il est en train d'être épluché par la police, police qui a elle-même ouvert une enquête mardi dernier sur certaines des fêtes de Downing Street. La Metropolitan Police a demandé à Sue Gray de faire des références minimes aux événements couverts par l'investigation judiciaire pour ne pas porter préjudice à l'intégrité du processus. Pourtant, en annonçant l'ouverture de son instruction, la police londonienne avait assuré que les conclusions de l'enquête interne pouvaient être publiées et de nombreux élus de tous bords les attendaient avec impatience. C'est donc un rapport largement édulcoré qui risque de circuler désormais. Pour ceux qui veulent voir la démission de Boris Johnson, cela prouve que les faits établis par Sue Gray sont graves et préjudiciables à la crédibilité du Premier ministre. Tous ces reports menacent également de donner une image de dissimulation. Même si la polémique paralyse l'action du gouvernement, Boris Johnson profite naturellement de ce délai, lui qui refuse de démissionner pour l'instant, et alors que l'intérêt public pour le Partygate commence à s'essouffler.
On prend la direction du Burkina Faso et après le coup d'État de lundi dernier, les chefs d'État de la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, se sont réunis en sommet extraordinaire. L'organisation a décidé de suspendre le pays de ses instances. Pas d'autres sanctions pour l'heure, mais l'envoi d'une mission sur place. Sébastien Némette.
Comme pour le Mali et la Guinée-Conakry, le Burkina Faso est à son tour suspendu de toutes les instances de la CDAO. Une sorte de passage obligé de l'organisation sous-régionale qui veut toutefois rester prudente et ne pas se précipiter, confie un participant au sommet. La CDAO a donc choisi de ne pas employer la manière forte d'entrée de jeu et de privilégier le dialogue. Première étape, l'envoi dès demain à Ouagadougou d'une délégation de chefs d'état-major. Ils auront pour mission de rencontrer la junte et de faire une évaluation de la situation sécuritaire du pays. Ils céderont ensuite la place lundi à une seconde mission politique composée de ministres des Affaires étrangères ouest-africains. Le résultat de ces deux déplacements de haut niveau sera étudié lors d'un nouveau sommet extraordinaire de la CDAO qui se tiendra jeudi à Accra. Les pays de la sous-région se veulent donc prudents et préfèrent ne pas griller les étapes. L'organisation veut d'abord bien évaluer la situation, utiliser toute une panoplie d'autres mesures avant de prendre davantage de sanctions, confie un observateur.
Retour en Australie, un projet de loi pour mettre fin à la détention obligatoire des demandeurs d'asile est à l'étude. On rappelle que ici, toute personne n'étant pas résident ou citoyen et n'ayant pas un visa valide est placée en centre de détention jusqu'à soit obtenir ce fameux visa ou quitter le territoire. Lucie Guedes est avocate au Public Interest Advocacy Center. Pour elle, ce projet de loi doit être adopté de toute urgence.
We say that the indefinite and arbitrary detention of asylum seekers and refugees in Australia must urgently end. It is unlawful, it's harmful, and it's unnecessary.
1 milliard de dollars sur 10 ans, c'est le montant alloué par le gouvernement Morrison pour tenter de réparer la Grande Barrière de Corail, une annonce confirmée par la ministre de l'Environnement, Susan Lee.
This money is about protecting the reef. It's about maintaining the gold standard of management that we have internationally. It's about backing the communities. So we really know that this money will land in communities where it counts. And it will be on the ground, making sense, supporting the environment.
Greenpeace dénonce cette aide financière. Pour l'association, l'État devrait plutôt s'attaquer au problème de fond qu'est le changement climatique, causé notamment par les énergies fossiles.
The best way for the Morrison government to safeguard the future of the reef is to rapidly reduce emissions. Now, in a developed economy like Australia, that means replacing all of our coal-burning power stations with renewable energy by 2030. This is the timeline that the UN and the International Energy Agency are calling for if we are to get to net zero emissions by 2050.
Ce milliard de dollars australiens vient s'ajouter à deux autres milliards déjà alloués dans le cadre du plan Récif 2050. Le point sur la météo du jour. Attention, il fait encore très chaud à Perth, pas moins de 39 degrés à l'ombre. Adélaïde, nuageux 29 degrés. Melbourne, averse 25 degrés. Hobart, nuageux 20 degrés. Canberra, averse 27 degrés. Sydney, du soleil, comptait 29 degrés. Et des averses, plus de 30 degrés du côté de Brisbane, Cairns et Darwin.
programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et le rappel des principaux titres de l'actualité. En Australie, le booster autorisé pour les adolescents de 16 et 17 ans. L'objectif étant bien sûr de réduire le taux de contamination parmi les jeunes. En France, 21 000 écoles fermées à cause de la pandémie, en record. Certaines épreuves du bac sont reportées. Et enfin, la Russie qui assure ne pas vouloir déclarer la guerre à l'Ukraine. Washington n'y croit pas. Moscou dénonce l'ingérence des Occidentaux.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.